Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Cette semaine, j'ai dégusté les premières tomates cerises de mon jardin. Ouais, c'est vraiment un plaisir de cueillir quelque chose qu'on a planté, arrosé, pour lequel on a patienté. Et je pense que nous avons été plusieurs à faire un jardin cet été, si j'en crois tous les étals des pépinières qui se sont fait dévaliser au mois de mai. Et je pense que c'est probablement qu'avec la COVID, on a eu envie d'être un petit peu plus indépendant des épiceries, on a eu envie d'acheter plus local, d'être plus autonome au niveau de l'alimentation, de découvrir davantage également l'agriculture biologique. Mon voisin en face, Philippe, il s'est d'ailleurs lancé dans un vaste projet de jardin bio. D'habitude, il fait quand même 3-4 tomates puis une rangée de salade, mais là, c'est sérieux, là. C'est un grand projet et il est venu me porter des légumes vraiment goûteux. Mais ça tombe bien, cette semaine, on parle de ces deux sujets-là. On parle des relations avec nos voisins et de l'évolution de l'agriculture biologique. Je reçois d'abord un pionnier de l'agriculture biologique et l'inventeur du cidre de glace, merveilleux justement pour passer un bon temps avec ses voisins, M. Christian Bartomeuf, qui lance ces jours-ci son premier livre « Autoportrait d'un paysan rebelle » aux éditions du Passage. Et ma foi, ça semble un homme vraiment passionnant. C'est un autodidacte dont la trajectoire s'est construite au fil de rencontres marquantes, un homme qui était avant son temps et dont l'imagination se retrouve dans des beaux produits que vous avez sans doute déjà dégustés, comme la face cachée de la pomme ou les produits du domaine Pinacle. Et maintenant, il est derrière le clos Saragna. Restez avec nous, ça promet, je pense que ça va être une belle rencontre. En deuxième partie d'Au fil du temps, notre chroniqueuse Louise Baillargeon, que vous avez entendue il y a quelques semaines, fait un duo avec son amie Louise, ouais, les deux Louise, et elle revisite pour nous un grand classique, le radio-roman. Il y en a peut-être parmi vous là, qui se sont agglutinés il y a longtemps là, devant la radio pour écouter un homme à son, et son péché, qui était un radio-roman diffusé à Radio-Canada pendant 23 ans, qui était ensuite repris à la télévision. Donc, on revisite tout ça, puis avant de vous présenter nos invités cette semaine, je vous fais écouter « Je ferai un jardin » de Clémence Desrochers, dont la chanson « La vie de factory » sera intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. nous regarderons pousser les fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits. Le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés, si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois. Il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Cet été, je ferai un jardin, cet été.
Mon premier invité est Christian Barthomeuf, un profil atypique comme je les aime, ou plutôt je les adore. Dans son premier livre, Autoportrait d'un paysan rebelle, qui sort ces jours-ci aux éditions du Passage, il nous donne rendez-vous avec un parcours de vie exceptionnel et avec, je dirais, là, la naissance de l'agriculture biologique et la découverte du vin de glace, du cidre de glace, qu'on appelle le vin de glace de pomme. Mais je vais lui demander de nous raconter tout ça. Mais juste avant, là, juste pour que vous voyez le personnage, avant de s'intéresser à l'agriculture biologique, il a été photographe, il a lancé une compagnie de production de films, il a aussi eu son magasin de systèmes de son. Bref, j'ai très hâte de lui parler. Bonjour, Christian!
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui vous a amené à l'agriculture biologique?
Oui, comme tout le reste, le hasard, évidemment. Mais au départ, ce n'était pas la culture biologique. Moi, j'avais, comme vous avez dit, j'avais un magasin de systèmes de son. J'en avais deux, en fait, dont un Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'ai rencontré dans le centre d'achat où j'étais un Français qui vendait du cuir, assis sur le trottoir. Et on a discuté 10 minutes, il était sympa, puis il m'a invité chez lui à Frédéricsburg. Je ne connaissais absolument pas ce coin de pays, ce village. Il m'a dit, viens, c'est très beau, c'est joli, blabla, ok. Ben, le samedi soir suivant, j'allais donc dîner à Frédéricsburg, et je suis tombé en amour avec la région, évidemment. Donc j'ai acheté une ferme, je suis revenu quelques jours plus tard voir une agente d'immeuble qui m'a montré beaucoup de propriétés. Et je suis tombé amoureux d'une ferme à Danham où il n'y avait rien. Elle servait de chalet à des gens qui avaient déménagé en Ontario, puis c'était à vendre. Voilà. Donc je l'ai acheté, puis de fil en aiguille, j'avais aucune idée de que faire avec une ferme. Je continuais de m'occuper de mon magasin, de mes deux magasins de système de son. Et un beau jour, par hasard, j'ai décidé de planter de la vigne.
Je pense qu'il y a quelqu'un, justement, qui vous a dit, il me semble, votre terrain, là, vous avez des beaux coteaux qui seraient excellents pour planter de la vigne.
Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de déclencheurs. Il y avait effectivement un bonhomme qui livrait de l'huile à chauffage dans la région avec un vieux camion style... le film de Spielberg, en tout cas, bref.
On le voit, quand on lit votre livre, il y a tellement d'images évocatrices.
Bon, un vieux camion. Et il s'arrêtait, on discutait, il venait boire un verre de vin, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je ne me rappelle pas comment on s'est rencontrés, mais il me dit toujours, maudit que tu as des beaux coteaux pour faire de la vigne. Mais moi, ça ne me rentrait pas une oreille, ça sortait par l'autre. Sauf qu'en 1989, j'avais aussi entendu les voisins dire, oui, mais cette terre-là, c'était la plus chaude de la région, les tomates étaient toujours plus prêts avant tout le monde, la cabane à sucre fonctionnait toujours avant tout le monde, etc., etc. Et un beau jour, j'ai discuté avec un agronome de tout ça, puis il m'a dit, c'est simple, on va tout simplement mettre un thermomètre pour avoir des unités thermiques. Je sais pas combien de temps j'ai, mais bon, ça peut être très long. Hein. Alors, je vais essayer d'aller vite.
Non, mais je pense qu'on va aller plus sur les grands pans de votre histoire parce qu'on a un beau 5 minutes ensemble. Il y a tellement de choses que je veux couvrir.
OK. Bon, ben en tout cas, bref, les unités thermiques qu'on avait prises cette année-là correspondaient à Vineland, Ontario. Mm-hmm. Ça ne correspondait pas avec les unités du Québec, mais Vineland, Ontario. Ça aurait été Banana Land, j'aurais planté des bananes. Mais c'était Vineland, j'ai planté des vignes. Voilà.
Et cette expérience-là des vignes, bon, vous avez fait du vin, côte d'ardoise, vous avez été...
J'ai donc planté des vignes, j'ai créé le domaine des côtes d'ardoise qui existe toujours. Et j'ai travaillé parce que je ne connaissais pas vraiment l'agriculture, même si j'étais né en immersion agricole, je n'avais jamais regardé ça. Quand tu as 3 ans, tu t'en fous. Hein. Et donc, j'utilisais ce que les agronomes me faisaient faire. Tu as une petite pépite, il faut la tuer, donc insecticide. Il y a une petite maladie éventuelle, donc fongicide. Pendant 4, 5 ans, 6 ans, j'ai passé des produits chimiques, comme tout le monde. Mais un jour que je venais de passer un insecticide, c'était pas la première fois, je venais de pulvériser un insecticide, je m'aperçois que ça pue et qu'il y avait un silence de mort.
Mmh.
Wow.
Tout était mort. Ça
m'avait jamais interpellé. Là. J'entendais plus d'oiseaux, j'entendais rien. Les oiseaux n'étaient pas morts, mais je veux dire, ils ne venaient pas ici, ils n'avaient rien bouffé. Parce qu'il y avait toujours des insecticides ou des fongicides. Donc,
ça vous amenait à l'agriculture biologique.
Le lendemain, oui, mais ça a pris encore une dizaine d'années. Mm. Le lendemain, je suis retourné très tôt, à 6h ou 7h du matin, et ça sentait toujours aussi mauvais, puis c'était toujours aussi silencieux. Là, j'ai pris une décision irrévocable, comme toutes les décisions que je prends dans ma vie, elles sont irrévocables et spontanées. Plus jamais j'utilise de produits chimiques. Je ne mets plus jamais d'insecticide sur les vignes. Voilà, et puis j'ai jamais remis l'insecticide sur les vignes pour m'apercevoir avec le temps que les vignes n'avaient pas besoin d'insecticide. J'ai quand même quitté les côtes d'ardoise en 1991 parce que j'étais pas vraiment motivé à faire du vin au Québec parce que le vin était pour moi, et l'est toujours, une business internationale. Mm-hmm. Donc si on fait un vin à 10, 11 ou 12 dollars, quelle que soit sa couleur, il doit être équivalent à un vin du même prix venant d'un peu partout. C'est pas vraiment évident. Ça l'était pas à l'époque, ça l'est pas toujours. Donc pour moi, c'était pas motivant. En 91, j'ai fait du cidre de glace, du vin de glace. Je me suis dit, là, c'est pas le Portugal ou le Chili.
Oui, c'est spécifique à nous, là.
C'est à nous.
Et c'est un Français qui nous a donné ça au Québec.
Non, attends, il y en avait déjà en Ontario. Hein.
Oui.
Oui, il y en avait déjà en Ontario, du vin de glace. Mais en même temps que je cueillais mes raisins de vin de glace, je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'embête? J'ai pas dit bête, j'ai dit merde, mais bon.
On vous pardonne.
À faire du vin de glace, pourquoi je n'essayais pas avec des pommes? Parce que mon voisin avait 5000 pommiers. J'étais entouré de pommes. J'ai dit pourquoi je n'essayais pas avec des pommes? Donc, 3 mois plus tard, je suis allé voir mon voisin. Je lui ai dit, vends-moi des pommes. Il m'a vendu 4 bines de 800 livres de pommes que j'ai fait geler. J'ai attendu le mois de décembre, janvier avant de les acheter, évidemment. J'ai fait geler les pommes, je les ai pressées. J'ai fait un gaspillage énorme parce que je n'avais pas le bon matériel. Mais c'était bon. J'ai fait goûter aux clients à la boutique des Côtes d'Ardoise pendant l'été. Waouh, c'est bon, c'est délicieux, blablabla. OK. Donc là, la motivation pour les vignes, elle venait de prendre son coup de mort.
Mm-hmm.
Et puis, en 31 décembre 91, je quittais les Côtes d'Ardoise et je me lançais dans le site de classe. Voilà, grosso modo. Et la culture biologique, c'est venu encore un peu plus loin. Mais j'avais décidé que je ne ferais plus de vignes au Québec, que je ne ferais plus jamais de vignes de ma vie, etc. Donc je faisais du cidre de glace en me servant des pommes de mon voisin et avec une licence que j'avais eue avec mon voisin. En 92, lors de retour d'un voyage, c'était pas en 92, c'était en 96. Je fais beaucoup de voyages dans ces années-là. De retour d'un voyage en Asie, j'avais sur mon répondeur une dame qui me dit bonjour avec un drôle d'accent. Bonjour Monsieur Bartonneuf, j'aimerais planter de la vigne. Est-ce que vous pouvez venir me voir? Ma première réponse aurait dû être non, mais son accent m'intriguait et c'était pas loin de chez nous, c'était à Sutton. Son accent m'intriguait beaucoup, donc je suis allé voir. Et c'était une grande forêt, puis avec une colline, une montagne avec des forêts. Elle me dit j'aimerais planter de la vigne là. Ah bon, d'accord. Moi, je vais répondre à la question. L'accent, c'était une Tchécoslovaque. J'avais un accent tchèque. Et ce qui m'a interpellé quand je suis rentré sur sa propriété, il y avait une chapelle qui, j'ai appris par la suite, était une copie conforme d'une chapelle du XIIe siècle tchèque.
Wow.
Qui avait été refaite ici. Elle a fait venir d'Europe des compagnons qui ont taillé les pierres avec des outils d'époque, qui ont taillé les ardoises avec des outils d'époque. Elle avait acheté des vitraux qui valaient une fortune dans c'était une antiquaire, hein, Madame Anthony, c'était mm-hmm. Madame Anthony, une antiquaire. Et puis, bref, mais je voulais quand même pas faire de la vigne, je voulais pas y dire tout de suite. Donc, quand on a eu tout visité, j'ai dit, écoutez, Madame Anthony, j'ai pas dit non, là. J'ai dit, si jamais je refais de la vigne un jour au Québec, je pensais que j'avais mis la barre très haute, là. Un, ça va être du vin de glace, et deux, ça va être biologique ou j'en fais plus jamais. Mm-hmm. C'est exactement ce qu'elle voulait entendre.
Donc, et ça vous a amené après à tout plein d'autres produits de la pomme de vin de glace que je vais inviter nos auditeurs à découvrir votre livre parce que c'est extrêmement riche tout ce qui suit. Mais j'aurais une dernière question pour vous en lien avec notre émission qui est sur les générations. Quel conseil vous donnez aux nouvelles générations là, pour se montrer aussi ouvert aux rencontres comme vous l'êtes? Parce que ça a été vraiment déterminant. Quand on lit votre livre, on voit que c'est ces rencontres-là qui vous ont amené à la prochaine étape. Alors peut-être en conclusion...
en conclusion, je veux dire que j'ai quitté l'école à 15 ans, mais j'ai appris à 17 ans lors d'une orientation professionnelle que j'avais une prépondérance à l'autodidactisme. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et en fait, je l'ai compris par la suite, même si j'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai appris absolument tous les métiers que je voulais parce que j'y croyais. Et si je suis convaincu, si j'aime vraiment ce que je fais dans le cas de la photographie, dans le cas du cinéma, dans le cas de l'agriculture, dans le cas de tout, je ne pourrais pas suivre de cours parce que je vais m'intéresser tellement au sujet que je vais aller plus vite que le professeur. Je vais apprendre chez moi le soir et au bout de 3 mois, il va m'envoyer promener parce que je saurais déjà tout. Donc, je peux apprendre. Les gens qui... faut pas désespérer, tu as 15 ou 16 ans, tu vas pas à l'école, mais il y a quand même des choses à faire.
Ben, je retiens ça, Christian, vraiment, de ouais. suivre sa passion, de toujours apprendre. Et j'incite nos auditeurs à lire cet ouvrage-là qui est vraiment très divertissant, qui est plein d'espoir de quelqu'un qui était avant son temps, mais qui a toujours suivi son chemin au fil des rencontres. Alors, c'est Autoportrait d'un paysan rebelle, Christian Berthomeuf, aux éditions du Passage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
voisin.
Ah, mais si vous connaissez mon voisin, quand même, on va vous le présenter.
Vous avez reconnu Mon voisin des Frères à cheval, une chanson super entraînante. Mon premier invité, Christian Bartomeuf, parlait justement du rôle que son voisin avait eu dans la production du cidre de glace. Moi, je vous ai parlé de mon voisin Philippe, le ninja du jardin bio. Et maintenant, nous allons parler avec des spécialistes des relations du voisinage. On reçoit de l'organisme Voisins solidaires, qui est lié au Carrefour Action municipale et famille, Alexandre Roy. Bonjour, Alexandre.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Je sais pas si...
Très bien.
On vient d'entendre une entrevue très divertissante, alors je suis vraiment de bonne humeur.
Oui.
Dites-moi, Alexandre...
J'ai eu la chance d'entendre la chanson, ça m'a aussi rendu de bonne humeur.
Bon, c'est parfait, ça commence bien. Dites-moi, Alexandre, pouvez-vous nous parler, qu'est-ce que Voisins solidaires?
Bien sûr. C'est une initiative de l'organisme Carrefour Action municipale, comme vous venez de le mentionner, qui en fait propose un état d'esprit. OK? C'est rendre un peu les lettres de noblesse aux voisins. Moi, j'aime bien dire, si j'étais un extraterrestre là, et puis que je débarquerais puis je regarderais sur Internet c'est quoi le voisinage, ça me ferait un peu peur. Puis en même temps, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Le voisinage est quelque chose de fantastique qui aide beaucoup de gens. Et puis, dans cette idée-là, l'organisme pour lequel je travaille propose cet état d'esprit-là, essaie de rendre cette noblesse-là, de dire, écoutez, le voisinage, ça peut être du partage, ça peut être du don de soi, c'est de l'ouverture, c'est de la bienveillance, et c'est une invitation aussi à dire, ben, peu importe qui, qu'on soit riche, moins riche, malade ou en santé, on peut tous faire quelque chose pour améliorer son voisinage et soi-même. Et on n'a pas besoin d'une instance mondiale pour faire quelque chose comme ça.
Alexandre, j'ai eu l'occasion de travailler au tout début de ce projet-là. Et moi-même, bon, je parle souvent à quel point c'est important, les liens de voisinage. Mais je sais qu'on avait travaillé à l'époque sur un quiz pour essayer de déterminer quelle sorte de voisin on est. Parce que des fois, on peut être quelqu'un de plus gêné, puis pas nécessairement avoir envie là, de parler à nos voisins. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de quel type de lien de voisinage on peut développer?
Bien sûr. Puis vous faites bien à le mentionner. Hein, je pense que la chose la plus importante à se rappeler, là, c'est qu'il faut se respecter. On n'est pas tous... des grands rassembleurs qui veulent changer le monde. C'est important de pas en faire plus que le client demande, comme on dit, puis aussi d'être intègre face à ça. Mais on se rend compte aussi qu'il y a quand même plusieurs types de voisins. Il y en a qu'on appellera des voisins, on va dire, débutants, okay, qui vont dire bonjour, qui vont déposer une carte de Noël, qui vont prendre soin d'un animal de compagnie quand vous partez, qui vont ramasser le courrier. Puis à l'autre extrême, on a vraiment des voisins rassembleurs. Là, qui, là, et eux vont tenter de faire des courses pour vous. Ils vont essayer de mobiliser des gens pour faire une fête des voisins. Ils vont dire ah ben il faut faire une ruelle verte que nos enfants puissent jouer, plus tranquille. Donc, ça va vraiment dans tous les sens, toujours en ayant le même principe qu'on est des voisins et qu'il faut veiller les uns sur les autres.
Vous savez, notre émission est basée sur les liens intergénérationnels. Mmh. Alors, j'aimerais vous entendre parler, là, justement, comment, lorsqu'on est de générations différentes, particulièrement pour nos voisins plus âgés, comment on peut établir des bonnes relations et sentir qu'on fait preuve de bienveillance. Est-ce qu'on s'interpose à des voisins plus âgés? Comment leur faire connaître là, qu'on peut être utile?
Bien, déjà, j'aimerais dire aussi, une des beautés du mot voisin, c'est qu'il inclut forcément quelqu'un d'autre. On ne peut pas être voisin. Puis l'autre beauté du voisinage, c'est qu'on ne choisit pas non plus qui sera voisin. Puis là, on est exposé à toute une richesse qui nous entoure. Fait que je pense que pour prendre, on va dire, contact avec quelqu'un qui habite à côté de chez nous, ça peut faire peur, bien entendu. Autant pour la personne qui doit le faire que la personne qui va recevoir, qui ne s'attend pas, lui, à avoir la visite aujourd'hui. Mais je pense qu'en souriant simplement, en disant bonjour, peut-être éventuellement, on voit quelqu'un, peut-être une personne âgée, qui a la difficulté à monter les escaliers avec des sacs, de proposer son aide, puis d'y aller étape par étape, le plus naturellement du monde.
Est-ce qu'il y a des outils sur le site de Voisins solidaires, peut-être, qui peuvent nous aider?
Vraiment, si vous allez sur le site voisinsolidaires.ca, vous allez trouver déjà plein d'outils pour vous situer, vous êtes où, mais aussi pour vous donner, en fonction de qui vous êtes, des idées de gestes à poser quotidiennement, mais aussi des idées collectives. C'est vraiment des projets rassembleurs qui peuvent être faits entre nous, simplement pour le plaisir de le faire. Puis ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est qu'on ne se doute pas de toutes les répercussions très, très importantes que ça peut avoir. Simplement déblayer de la neige, parce qu'on sait qu'on en a de la neige.
On va en avoir à un moment donné.
C'est une certitude. C'est 2-3 fois par année, ça peut aider quelqu'un à être maintenu à domicile. De pas quitter un domicile qu'elle aime, tu sais. Donc, ça.
Ben, merci, Alexandre. On doit se laisser, mais on va aller sur le site Internet Voisins solidaires. Un gros merci.
Plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Rebonjour, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Si vous avez manqué notre première demi-heure, vous savez que vous pouvez le réécouter sur notre site Internet à canalm.vuesetvoix.com. Je m'enfargeais dans les lettres aujourd'hui. Alors, également, vous savez que nous sommes présents sur différentes plateformes de balado-diffusion, que ce soit Spotify, Apple Balado ou Google Play Music. Et je reçois dans quelques instants les deux Louise Baillargeon et Louise Charron, qui sont deux amies, deux complices, deux comédiennes bénévoles au sein de l'organisme Présage, pour discuter des préjugés envers, en fait, que les jeunes ont envers les personnes âgées, que les personnes âgées ont envers les jeunes. Mais on va vous faire ça sous une manière vraiment différente. On va revisiter le radio-roman. Avant, on écoute La Complainte de la Sainte-Catherine avec les sœurs McGarrigle.
Y'a longtemps qu'on fait de la politique. La pâte dentifrice Pepsodent présente Un homme et son péché. Une autre des belles histoires des pays d'en haut. N'est-ce pas hier après-midi sur la rue Sainte-Catherine à Montréal qu'elle se promenait avec Julia lorsque...
Je me demande si tout ce monde-là... De quoi c'est que tu dis, Donaldo?
Je me demande si tout ce monde-là est heureux.
Ben, tu sais bien, pauvre vieille, qu'il y a des malheureux ici, comme partout ailleurs. Non seulement, ils n'ont pas le temps d'y penser, ils vivent trop vite.
Je t'assure que je me sens perdue. Lâche-moi pas le bras, Julia.
Ben, t'as pas besoin d'avoir peur.
Où c'est qu'on va comme ça?
Viens, on va rentrer ici, au théâtre.
Moi, j'aime pas bien ça, Julia.
Arrive, arrive, ça va te changer les idées. C'est moi qui vais payer. Non, laisse faire, ça me fait plaisir, Donaldo.
On vient d'entendre un extrait d'Un homme et son péché qui a été en onde 23 ans à Radio-Canada, ensuite repris en téléroman et re-repris dernièrement. Vous l'avez probablement écouté à Radio-Canada et sur Netflix. Et bien sûr, c'était, on voyait, là, on entendait plutôt Julia et Donalda sur la rue Sainte-Catherine. Un beau lien avec la chanson qu'on vous a fait entendre, La complainte de la Sainte-Catherine. Et je vous dis qu'en ce moment, la Sainte-Catherine, elle se complaint pas mal, c'est quelque chose à Montréal. Alors, cet art-là, le radio-roman, c'est un art, là. On était beaucoup de gens à s'agglutiner autour de la radio, puis ça s'est transformé en téléroman. Et on voit qu'au fond, c'est simplement de raconter des histoires. Et on avait envie, avec ma chroniqueuse Louise Baillargeon, de revisiter le radio-roman pour parler de quelque chose d'essentiel, soit les préjugés entre les générations. Alors, je reçois Louise Baillargeon et Louise Charron. Comme je mentionnais, ce sont des complices, des amis, des comédiennes bénévoles au sein de l'organisme Présage qui interviennent dans le milieu des personnes aînées depuis plus de 15 ans. Donc, elles ont choisi cette forme-là, le radio-roman, pour parler de plusieurs sujets au fil des prochains mois. Aujourd'hui, elles nous parlent des préjugés. À vous, les Louises!
Hey, bonjour, Louise! Je viens de terminer de lire un article où on parle de nous autres, les personnes âgées.
Imagine-toi donc, moi aussi, je l'ai lu.
Je me rends compte qu'il existe un paquet de préjugés sur nous autres. Hey, moi, j'aurais jamais dû lire ça.
Ben moi non plus, j'aurais pas dû lire ça. Ça m'a juste mis de mauvaise humeur. Puis, inquiète aussi, je me suis demandé, c'est-tu ça, mon avenir? C'est certain que j'ai pas les mêmes capacités physiques qu'avant, mais... Je considère que je suis en forme quand même. Puis, écoute, je suis capable de faire bien des affaires, tout ce que je veux.
Bien, c'est la même chose pour moi. Mais écoute bien ça, là. Ils disent que les personnes âgées sont plus lentes à comprendre, puis sont plus capables d'apprendre des choses nouvelles. Bien, c'est le temps de faire une mise au point. Hein. Moi, là, ça fait 3 ans que je prends des cours d'espagnol, et je te dis que je commence à me débrouiller pas mal bien.
Bien, puis en plus, Louise, il ne faut pas oublier tous les textes qu'on apprend encore pour notre théâtre.
Puis le cours que tu as suivi l'année passée avec l'Université du troisième âge, c'est sur l'histoire des États-Unis, si je me souviens bien.
Ah, t'as une bonne mémoire, mon ami. Bien, écoute, on est même encore capable d'entreprendre plein de nouveaux projets. Tiens, notre participation ici aujourd'hui à l'émission de Chantal, bien... C'est une première pour nous deux, puis on a décidé de plonger dans ce projet-là qui est nouveau, puis de prendre des risques.
Ouais, mais ce qui est frustrant, tu vois, là, c'est de lire puis d'entendre des choses qui nous concernent, nous autres les aînés, puis qui sont souvent négatives.
Ouais, puis ça, là, c'est souvent des préjugés. Puis moi, je pense qu'il est grandement temps qu'on les déboulonne, ces préjugés-là.
Hey, t'as bien raison. Tu sais, là, moi, j'ai 79 ans, mais je vais avoir 80 d'ici la fin de l'année.
Bien, moi, c'est 70 que je vais avoir dans quelques mois, puis je me reconnais pas pantoute dans ce que je lis dans les journaux puis dans les magazines.
Bien, moi non plus, je me reconnais pas. Mais je ne suis pas concernée. Hein. Tiens, écoute ça. Les personnes âgées ont rien à faire de leur journée. Hey, moi, ce qui me concerne, quand j'ai une journée dans la semaine où j'ai rien à faire, je suis contente.
La même chose pour moi. Moi, c'est mes enfants qui aimeraient bien que je sois bien occupée. Hein? Tu sais, entre mon bénévolat, mes études, ma marche quotidienne, l'épicerie, les repas, la lecture, puis j'en passe. Hein? Peux-tu te dire qu'il ne me reste pas grand temps pour garder mes petits-enfants? Puis, c'est pas parce que je les aime pas, là.
Je sais bien que tu les adores, mais comme moi. C'est justement parce qu'on les aime qu'on prend soin de nous autres, physiquement puis mentalement. Hey, faut que je te compte quelque chose. Pas plus tard que la semaine passée, ma petite fille, qui a déjà 20 ans, là, elle m'a dit, « Tu sais, mamie, je trouve que je suis vraiment chanceuse d'avoir une mamie comme toi. On a souvent les mêmes analyses, les mêmes idées. Tu es au courant de tout ce qui se passe. C'est vraiment une mamie exceptionnelle. »
Ça ne me surprend pas. Mais tu sais que si, selon les préjugés qu'on entend, là, tu faisais rien de tes journées, ben, tu serais pas mal moins intéressante pour tes petits-enfants. Parce que nous autres, les personnes aînées d'aujourd'hui, mettons si je peux dire ça comme ça, là, on peut être des modèles pour toutes les générations qui nous suivent, hein, parce qu'on est des citoyens puis des citoyennes à part entière, quel que soit notre âge.
Ben, je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute celle-là. Là. Les personnes âgées sont tellement lentes qu'elles nous font perdre du temps. À l'épicerie, par exemple, elles bloquent les allées.
Là-dessus, je peux te dire qu'il m'arrive souvent, moi, d'être arrêté en arrière d'un jeune qui est en plein milieu de l'allée, les yeux rivés sur son cellulaire. Ou bien encore, il est au téléphone avec sa blonde pour savoir quelle canne de petits pois qu'il veut qu'elle achète.
Hein? Et on dit aussi que les personnes âgées sont la cause de la majorité des accidents de la route. En réalité, là, toute proportion gardée, les conducteurs de 65 ans et plus sont moins impliqués dans les accidents de la route que les 64 ans et moins.
Puis, dans un autre ordre d'idée, Louise, puis j'ai honte de dire ça, mais comme beaucoup de monde, là, imagine-toi donc, j'ai déjà pensé que les personnes âgées avaient plus de vie sexuelle.
Ben, tu m'en diras ça. Ben, moi aussi, j'ai déjà pensé ça. Mais... peux-tu te dire que j'ai changé d'avis? Puis je te confirme que le sexe à notre âge, ben ça existe encore. Oh, autre chose. En plus, là, on dit que les personnes âgées sont dépressives.
Ben, ça aussi, c'est un autre préjugé. Parce qu'encore là, selon des statistiques, les personnes de 65 ans et plus souffrent pas mal moins de dépression que les 64 ans et moins.
Ah, j'ai pas de misère à croire ça, hein? Je suis passée par là quand j'étais plus jeune. Le travail, les enfants, les relations amoureuses, tout cela, mais ensemble, là, ça apporte pas mal de stress, d'anxiété et de dépression. Mais aujourd'hui, là, je me sens pas mal plus sereine.
Mais je suis bien contente. Puis moi, la même chose. Hein. Mais on entend aussi souvent que les personnes âgées vivent au crochet de la société.
Oh, ben là-dessus, je suis prête à défier n'importe qui. Hey, pense juste au bénévolat dans lequel les aînés s'engagent. Pendant que le Québec était en pause, puis que les personnes âgées de 70 ans et plus ont été littéralement confinées chez elles, il a manqué de bénévoles comme jamais.
Et ça ne me surprend pas, hein? Parce que plus du quart des heures de bénévolat sont faites par les personnes de 65 ans et plus. Ça, là, Louise, ça représente 1,5 milliard de dollars par année. Pense-y, 1,5 milliard de dollars, c'est pas ce que j'appelle vivre au crochet de la société, moi.
Ah, puis pense aussi à tous les grands-parents qui gardent les petits-enfants à temps plein. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense, hein. Mais ça aussi, j'appelle ça une contribution à la société.
Exactement. Alors, puis une des dernières en liste, écoute celle-là. Les personnes âgées sont dépassées par les nouvelles technologies et ça les intéresse pas. On se débrouille aussi bien que n'importe qui, hein? En ce qui me concerne, là, chercher, trouver, commander, payer, ben ça, là, c'est devenu ma réalité puis ma spécialité même.
Ben, c'est pareil pour moi. Mais je t'avoue que ben, j'appelle ma fille des fois pour me dépanner, mais pas souvent, hein?
Mais au fait, là, à partir de quel âge est-ce qu'on est vieux? Hey, tu sais, à 95 ans, ma mère, elle me disait, « Moi, là, je vais arrêter, mettons, de jouer à pétanque. Ben, quand je vais être vieille.
» Ça, des fois, les limites, là, c'est nous autres qui les mettons. Parce qu'on finit par croire ce qu'on entend puis ce qu'on lit.
Je peux te dire que c'est pas le cas de ma mère.
Mais, d'un autre côté, là, tu sais que les personnes âgées, elles aussi ont des préjugés face aux jeunes générations. Ben, un exemple. On entend souvent que les jeunes sont moins travaillants.
Oui, puis et aussi, on entend qu'ils pensent juste à leur image.
Oui, bon, il a pensé, nous autres aussi, au même âge, à notre image. Hey, je me suis-tu assez préoccupée de l'opinion des autres? Puis quand au travail, là, ben on a été élevé dans le carcan de travailler pour gagner notre vie. Aujourd'hui, je dirais que l'éducation des jeunes en font des adultes plus libres, plus créatifs. Ils ont l'opportunité de faire des choix de vie. Hey, puis, je reviens à l'image, là. Les tatouages. Tu trouves pas que c'est pas mal laid, puis... On peut se prendre au sérieux un jeune plein de tatous?
Ben là, Louise, là, ça, là, c'est un gros préjugé que tu touches là. Tu sais, tu te fais une opinion par rapport à l'apparence physique, mais c'est exactement la même chose que la majorité du monde souvent se font avec nous autres. On n'a plus la beauté, on n'a plus la jeunesse, ben pour eux autres, on n'est plus capable d'apprendre ni de comprendre.
Ouais, ça, t'as bien raison, hein. Mais... Tu dois avouer que les jeunes d'aujourd'hui là, sont moins disciplinés que nous autres. Ils ont moins le sens des valeurs. Hey, je te dis que dans notre temps...
Ben là, je t'interromps. Tu touches un autre point sur ce que les jeunes pensent de nous autres. On est tourné vers le passé. Donc, pour eux autres, là, on est contre les changements.
Ouais. Ouais, il ne faut pas oublier que nous autres aussi, on était jeunes.
Puis qu'on voulait des changements par rapport à la génération de nos parents.
En fait... Chaque génération a critiqué la génération qui l'a précédée.
Exactement, mais aujourd'hui, là, tu sais qu'il y a beaucoup de rencontres intergénérationnelles qui sont enrichissantes parce que chacun essaie de comprendre le parcours de vie de l'autre. Ben, c'est justement ce qu'on va traiter dans nos prochaines chroniques.
Hey, bravo les Louise! J'aime ça,
merci.
J'aime ça.
Merci beaucoup.
Comment vous avez trouvé ça?
Ah, ben, on était bien énervés les 5 minutes avant, là. Les répétitions, ça a été un peu comme quand on fait notre théâtre, mais c'est toujours le stress juste avant. Puis c'est la première fois qu'on faisait ça, on n'était pas certaine du résultat. Mais on avait vraiment à cœur là, de faire quelque chose qui donnerait le goût aux gens de retourner nous écouter.
Donc, c'est vraiment vous, là, c'est votre œuvre, ça, ça vient de votre plume.
Ah oui, tout à fait.
De notre plume, et je dirais un peu de notre vécu.
Oui.
Si peu. Hey, merci beaucoup, les Louises, d'avoir été avec nous. Puis, en tout cas, moi, c'est sûr que ça me donne envie de vous réécouter. Puis, je trouve ça intéressant d'être allé voir des deux côtés les préjugés qu'on peut entendre, autant venant des jeunes que des personnes âgées. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous réécouter. Et Louise, je vous fais entendre une chanson que vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup. « C'est beau la vie » de Jean Ferrat.
Oui, merci beaucoup, puis merci de votre invitation, puis à une prochaine chronique des deux Louise.
Oui, super, merci les deux Louise.
Merci encore.
À bientôt. Au revoir.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné. Aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée, pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
C'est beau la vie de Jean Ferrat. Je fais un petit clin d'œil à ma sœur Marie-Claude parce qu'on aimait beaucoup lorsqu'on était petite écouter cette chanson-là et je te salue ma sœur. Alors, vous en avez pensé quoi de notre radio-roman sur les préjugés? J'ai envie de vous entendre sur notre page Facebook, en fait sur la page Facebook de Canal M. J'ai envie de voir si vous avez reconnu des préjugés dont vous êtes victime comme personne aînée ou si, à l'inverse, vous êtes une personne jeune puis vous êtes reconnue dans ces préjugés-là. Alors, venez alimenter la discussion pour s'assurer là, qu'on fait pour vous une émission toujours riche. J'ai trouvé une petite citation de Anne Landers qui dit « À 20 ans, on se préoccupe de ce que les autres pensent de nous. À 40 ans, ça nous dérange beaucoup moins de ce que les autres pensent de nous. » Et à 60 ans, on découvre qu'ils ne pensaient pas finalement à nous. Alors, tout ça pour dire, et là, je suis inspirée par Christian Bartomeuf, faisons ce qu'on a envie, soyons passionnés par vraiment là, ce qui nous dévore et faisons-le tout simplement, quitte à passer pour quelqu'un d'atypique, pour quelqu'un qui n'est pas de son temps. Et là-dessus, il y a une autre personne, un autre auteur à qui je pense, qui est Serge Mongeau, qui est dans la 80-quelques, qui a écrit un livre sur la simplicité volontaire, qui est très, très, très populaire. Or, j'ai appris que la première édition de son livre, il a vendu à peu près une vingtaine de copies. C'est vraiment un flop monumental, et c'est quand le livre a été réédité 11 ans et 15, même 15 ans plus tard, là, que ça a connu tout le succès. Donc, finalement, les atypiques, souvent, sont avant leur temps, mais ils ne démordent pas parce qu'ils sont passionnés. Donc, ne pas penser à ce que les autres pensent de nous, mais simplement avancer fort de nos passions. Alors, j'ai envie de vous présenter une chanson de Michel Rivard qui nous parle un petit peu ça, du moment où des fois, on se sent comme l'idiot du village qui est incompris. Bien, finalement, on se rend bien compte qu'on était juste en avant de notre temps.
Se sont posés à quelques pas de moi, moi qui ne suis que l'idiot du village. Ils sont venus me voir, ils ont confiance en moi. Ils m'ont donné une pierre imaginaire, comme un cristal taillé dans le bleu du soir. Je l'ai caché dans le bois sous les fous.
village, ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Ils ont pointé le ciel en riant aux éclats. Au village, ils ont ri, mais ils ne riront pas quand je m'envolerai. Et que resteront là
dans les nuages de Michel Rivard, qu'on va certainement réentendre parce qu'il nous a tellement fait de pièces magnifiques. Alors, c'est une autre belle émission d'Au fil du temps qui se termine. Ça fait maintenant 8 émissions que nous passons ensemble, déjà 8 émissions, et je peux vous dire à quel point j'ai du plaisir et je me sens passionnée et reconnaissante de pouvoir animer cette émission-là avec vous. Encore une fois, plus vous allez être présent avec nous, plus vous allez intervenir, plus on fera une émission riche qui touche à vos passions, qui touche à vos préoccupations. Merci à nos invités cette semaine, Christian Berthomeuf, dont le livre « Autoportrait d'un paysan rebelle » est lancé ces jours-ci aux éditions du Passage. Merci à Alexandre Roy de Voisins solidaires qui nous a parlé des bonnes relations de voisinage. Merci à nos deux Louise et à ce superbe radio-roman sur les préjugés. Et bien sûr, merci à toute l'équipe de Canal M, Louis Garon et Mathieu Tessier. La semaine prochaine, on parle avec l'organisme Combo 2 Génération et on parle de mentorat avec mon propre mentor, Gilles Sénécal. Alors, c'est une belle semaine à vous. Au revoir.